Voilà, pour en parler, on accueille sur ce plateau Charles Clerc, président de Clerc Group. Bienvenue à vous, pilote de ligne. Vous pilotez des avions, des gros avions ?
Long courrier, dans l'aviation d'affaires, mais long courrier, donc qui font ce genre de vol.
Qui font des longs vols comme celui-ci. Bienvenue à vous, Jean Serra. Vous êtes consultant aéronautique pour BFM TV. Bonsoir à vous, également pilote à l'époque.
Sur 747.
Bienvenue à vous. Et on est avec le docteur Edouard Obadia. Vous êtes médecin réanimateur et spécialiste en aéronautique.
Médecine aéronautique, oui.
Pardonnez-moi, en médecine aéronautique. Je rappelle ce bilan. Il y avait 211 passagers, 18 membres d'équipage. Il y a donc 20 personnes qui sont toujours en soins intensifs à l'heure où on parle. Une personne de 73 ans qui est décédée. Déjà, question un peu naïve, mais être en soins intensifs, ça veut dire quoi concrètement ?
En soins intensifs, ça veut dire être en réanimation, parce que on est dans le monde anglo-saxon et en anglo-saxon, la réanimation, c'est soins intensifs, intensive care unit. Donc, ce sont des gens qui ont des lésions qui sont importantes et qui nécessitent une surveillance médicale de chaque instant.
Parce que c'est quoi donc les blessures généralement ? C'est parce qu'ils se sont cognés trop fort contre oui. Les écrans
Oui, c'est parce qu'ils se sont cognés pour la plupart. Alors il y a deux types de chocs. Il y a d'abord les chocs qui surviennent au moment où l'avion décroche, c'est-à-dire tombe d'un certain nombre de centaines, voire de milliers de mètres, avec des personnes qui vont heurter le plafond. Et puis, à un moment donné où l'avion se restabilise, les gens vont retomber sur le sol ou sur les sièges. Et puis, il y a aussi, comme il y a eu sur cet avion, des dégâts sur l'intérieur de la cabine avec des galets qui se sont ouverts, donc des choses qui peuvent tomber sur les passagers, des choses... Vous voyez, donc ce sont des objets contondants et des chocs alors à la tête, sur les membres, un peu partout, oui.
Et ça, c'est rare quand même ?
C'est assez rare d'avoir autant de blessés sur ce genre de situation. Maintenant, les trous d'air, non, c'est pas assez rare. On a tous entendu dans un avion d'attacher sa ceinture parce que on rentrait dans une zone de turbulence. Elles peuvent être de plus ou moins grande importance.
Mais alors justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Généralement, on a tous pris l'avion sur ce plateau, je crois. Quand il y a des turbulences. Très rapidement, le pilote nous demande d'attacher la ceinture. Là, ça veut dire quoi ? Qu'il n'a pas eu le temps, Charles Clerc, de prévenir les passagers ?
L'enquête déterminera exactement ce qui a pu se passer. L'équipage a déjà, avant le vol, une connaissance assez précise de la météorologie grâce à des cartes. Donc, les membres d'équipage savaient exactement qu'au bout de 4 heures, 5 heures de vol, ils vont avoir un front orageux à traverser, par exemple. Et ensuite, à bord de l'avion, les pilotes disposent d'un radar, d'un écran, en fait, qui va être capable de déterminer en temps réel l'évolution nuageuse, en fait, qu'il y a devant l'avion. Donc, pour permettre, en fait, de l'éviter, généralement, latéralement, en faisant un virage à gauche ou à droite, pour éviter, justement, ces cellules orageuses, ces nuages à fort développement verticaux, qu'on appelle les cumulonimbus, et qui sont, justement, des nuages qu'on va essayer d'éviter de traverser dans la mesure du possible, car, en fait, les turbulences dans ces nuages sont absolument extraordinaires.
En l'occurrence, ça veut dire quoi ? Qu'on n'a pas pu les éviter, on s'est retrouvé dedans et...
L'enquête le déterminera. Est-ce que ces nuages n'ont pas pu être évités parce que le front était trop large, c'est-à-dire qu'il était trop important en fait pour que l'équipage puisse réellement imaginer une déviation très large ? Est-ce que l'équipage a pensé qu'en fait, entre deux cellules, il arriverait à se faufiler, que les turbulences seraient légères ? Est-ce qu'ils se sont fait surprendre parce qu'ils n'étaient pas complètement attentifs au vol ? Il y a plein de scénarios possibles et aujourd'hui, une enquête grâce en fait, à une boîte noire avec un CV avec un DVDR, c'est-à-dire des instruments qui ont tout enregistré en fait, de ce qui s'est passé, de la conversation que vous avez à l'intérieur en fait, du poste de pilotage entre les pilotes, jusqu'à des détecteurs de vibrations, ou même en fait, des alarmes qui auraient pu retentir. Donc on aura toutes ces informations-là et l'enquête déterminera précisément les circonstances.
Il y a une enquête en cours, vous avez raison, mais c'est vrai que tout laisse à penser, en tout cas les témoignages qui nous parviennent depuis hier, laissent penser que tout le monde a été pris un petit peu par surprise. Il y a l'un des témoins qui dit des membres de l'équipage étaient en train de servir le petit déjeuner à tout le monde et ce sont eux, les pauvres, ces membres d'équipage, qui ont été le plus grièvement blessés. On peut imaginer donc que le pilote potentiellement n'a pas eu le temps de prévenir ses équipes ?
Alors, visiblement, le pilote n'a pas prévenu soit... parce qu'il ne l'a pas vu, soit parce qu'il l'a sous-estimé, n'a pas suffisamment prévenu l'équipage, alors que l'équipage commercial, l'équipage commercial est debout dans les allées avec des chariots dans lesquels il y a des plateaux repas où il y a des où il y a différentes prestations que l'on sert aux passagers, c'est-à-dire qu'ils sont bien sûr physiquement très vulnérables à des changements d'altitude très rapides et très violents au sein de la cabine. Donc malheureusement pour eux, effectivement, ils ont fait partie des gens qui ont été très sévèrement blessés.
Là, on parle d'une chute de 1900 mètres à une vitesse de 900 km/h.
Oui, on verra après avec les enregistrements des boîtes noires quel est exactement le ratio de descente qu'ils ont eu, quelle a été la vitesse de descente et surtout quel est le temps de descente pour comprendre s'ils sont tombés à la verticale ou de différentes manières. Visiblement, d'après les résultats qu'il y a eu à l'intérieur de la cabine, la chute. Alors, on a parlé d'abord de l'avion serait d'abord monté et ensuite d'un seul coup a chuté de manière extrêmement violente. Et c'est pour ça que les dégâts à l'intérieur sont extrêmement importants puisque les gens ont été propulsés vers le plafond, puis d'un seul coup sont redescendus, comme on le disait tout à l'heure, soit sur les sièges, soit sur des rebords contondants ou des choses comme ça, ce qui a fait qu'on a eu quand même 30 blessés au départ, plus le cas un petit peu particulier d'une personne qui est décédée peut-être de peur, qui avait fait une crise cardiaque.
Oui, une question là-dessus d'ailleurs, parce qu'il s'agit donc d'un Britannique de 73 ans, sur ce vol Londres-Singapour, décédé d'une crise cardiaque. Ça, c'est un cas auquel vous avez déjà été confronté, c'est la peur qui peut créer ça?
Oui, bien sûr. Le stress, la violence du stress peut engendrer une crise cardiaque, soit chez quelqu'un qui est déjà cardiaque et qui a une pathologie cardiaque qui décompose, soit chez quelqu'un qui n'a pas de pathologie connue. Et la violence de ce stress peut entraîner une crise cardiaque et aller jusqu'à la mort, oui.
Des turbulences donc extrêmes. Lisa Hadef nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Lisa. C'est quoi vraiment une turbulence? Parfois ça aide d'y voir, de comprendre vraiment ce que c'est d'ailleurs, peut-être pour ceux qui ont peur en avion et qui nous regardent. Donc c'est quoi un trou d'air en fait, Lisa?
Une turbulence, c'est une agitation. L'avion, quand il est dans l'air, rencontre parfois des courants et comme dans l'eau, l'air est fluide et peut subir des variations ascendantes ou descendantes et des variations de température. Les turbulences peuvent être légères, modérées, sévère ou extrême, et selon le type de turbulence, les sensations ne sont évidemment pas les mêmes. Pour mieux comprendre, regardez en image ce à quoi ressemble le plus une turbulence. Le ressenti d'une turbulence légère peut être comparé à un passager dans une voiture qui roule sur une route pavée. Ce n'est pas confortable, mais ce n'est pas dangereux pour autant. Plus les variations augmentent en pression, plus le ressenti est fort. Et une turbulence extrême serait plutôt imagée par une voiture, vous le voyez, est lancée à 100 km/h, qui roule sur un dodane d'un mètre de haut. Ce que nous ressentons dans un avion n'est pas forcément représentatif de la réalité des secousses à l'extérieur de l'avion quand il croise des variations. La majeure partie du temps, pour les turbulences légères, le corps humain ressent des secousses assez violentes alors que l'avion bouge à peine. Regardez cette démonstration plutôt bien faite d'un steward qui s'appelle Mathieu.
Imagine que ça, c'est un avion. Un avion un petit peu aquatique. À l'intérieur, les passagers. Je vais bouger un tout petit peu la bouteille de haut en bas, de gauche à droite, et tu vas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ouais, ça bouge énormément alors que je fais juste de tout petits mouvements. Et bah dans l'avion, c'est exactement la même chose. Pendant les turbulences, on a l'impression que l'avion, il fait ça. Donc ça se dit, oh, il va tomber,
Et non, l'avion ne veut pas se crasher uniquement à cause des turbulences. Les pilotes sont entraînés à agir et réagir dans n'importe quelle situation, y compris lorsque l'avion entre en zone de turbulence. Le plan de vol peut être modifié. Un pilote peut dévier une zone de plusieurs centaines de kilomètres s'il y a un danger. Et l'habitacle de l'avion, pour rassurer les peureux, comme vous l'avez dit Julie, dont les ailes, tout est construit pour absorber les chocs et ça peut supporter d'éventuelles déformations parce que c'est souple.
Merci beaucoup Lisa, ça me rassure un petit peu. Moi j'ai peur en avion, mais alors donc il y a une sorte de ressenti, c'est-à-dire que on a l'impression nous à l'intérieur que tout bouge énormément, mais finalement il se passe pas grand-chose, c'est ça?
Finalement, un avion ne s'est jamais crashé, on n'a jamais eu un accident aérien à cause de turbulences. Voilà, donc c'est souvent en fait la turbulence qui est une conséquence en fait d'un environnement en fait auquel vous allez rentrer dans ce nuage, et en fait les dangers finalement ce ne sont pas les turbulences, ce sont finalement tous les phénomènes météorologiques qu'on pourrait avoir avec ces turbulences, que sont finalement la grêle, que sont en fait les éclairs qui pourraient en fait foudroyer à plusieurs reprises l'aéronef pour dérégler éventuellement des instruments de bord, ce genre de choses. Mais finalement, la turbulence en elle-même, à partir du moment où on est attaché,
c'est pas un problème. A priori, il ne se passe pas grand-chose. C'est quoi d'ailleurs les moments les plus dangereux? Vous disiez, il y a les éléments météorologiques, le décollage-atterrissage, en gros. C'est les moments les plus délicats en avion?
D'un point de vue accidentogène, vous avez, donc si vous regardez l'accidentologie en fait des 50 dernières années, vous avez oui plus d'accidents en fait au moment du décollage et au moment de l'atterrissage. Maintenant, aujourd'hui, vous avez pas plus d'accidents dans les 5 dernières années en fait sur ces étapes de vol qui sont un petit peu plus critiques en fait qu'en croisière. Malheureusement, Air France a perdu un avion entre Rio et Paris et c'était un accident qui était en croisière qui n'avait rien à voir avec le décollage ou l'atterrissage.
Jean Serra, que se passe-t-il quand on est pilote? Alors, en l'occurrence, ça s'est passé au bout de 10 heures de vol. C'était un long courrier qui reliait donc Londres à Singapour. J'imagine qu'on est en mode pilotage automatique à ce moment-là, à cette hauteur-là.
Oui, quand on est à haute altitude, parce qu'il faut savoir que plus on monte en altitude, plus le pilotage est délicat. Le moindre geste sur le manche a des actions importantes sur l'avion. Donc effectivement, dès qu'on arrive en croisière et déjà une grande partie de la montée, on branche le pilote automatique, mais le pilote pilote à travers le pilote automatique. C'est lui qui lui dit ce que le pilote automatique doit faire. Je veux tourner à gauche, je veux tourner à droite, je veux monter, je veux descendre, je veux contrôler ma vitesse, parce que le pilote automatique intègre également le maintien de vitesse. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle l'automanette. L'automanette fait que j'ai donné telle vitesse à respecter et les manettes vont se déplacer d'elles-mêmes pour que l'avion garde en permanence la vitesse donnée. Mais le rôle d'un pilote, c'est d'être comme dans une voiture, c'est d'être devant l'avion. Comme vous devez être devant la voiture. C'est-à-dire, il faut anticiper. C'est une des bases essentielles de la sécurité du vol. On ne vit pas le moment présent, on vit ce qu'il y a devant pour savoir comment on va réagir.
Et en l'occurrence, donc, vous nous dites que les pilotes, même si on est en pilotage automatique, contrôlent l'appareil.
Bien sûr, ils contrôlent l'appareil, et sans compter que très attention avec le problème de turbulence très sévère et tout ce qui s'ensuit, on peut arriver à un stade où le pilote automatique va dire « je ne sais plus faire » et il va sauter. C'est-à-dire qu'il va se déconnecter en mettant une alarme, si bien que les pilotes sont au courant, mais ça peut très bien arriver qu'on perde le pilote automatique pour une raison X ou Y, qu'on perde le pilote automatique en vol. Dans ce cas-là, vous repassez à la main et la première chose que vous allez faire, c'est essayer de descendre pour tomber à une altitude où ce sera quand même plus facile de piloter.
Et là, en l'occurrence, quand il y a des fortes turbulences comme ça, le pilote, il est complètement vulnérable, il est impuissant ou non? Il a quand même la possibilité, malgré les secousses, de gérer son avion, de contrôler son avion.
Comme l'a expliqué en fait Jean, il a tout à fait raison. En turbulence sévère, vous pouvez avoir une déconnexion du pilote automatique. Justement, pourquoi? Parce que vous rentrez dans les limites du domaine de vol de l'avion et le pilote automatique rentre en fait finalement dans une configuration qu'il n'a pas l'habitude, c'est-à-dire qu'il est trop lent pour corriger en fait des mouvements brusques qu'aurait l'avion. Et à partir de ce moment-là, les pilotes sont parfaitement formés et entraînés, vont descendre par nature, en effet, pour agrandir le domaine de vol, c'est-à-dire pour se permettre de pouvoir voler avec des différences de vitesse plus importantes et d'être beaucoup plus confortable dans le pilotage qui redeviendrait manuel.
Pablo. J'ai une question très pratique, c'est que vous me dites qu'il n'y a plus de pilote automatique quand c'est vraiment trop sévère, quand les turbulences sont trop sévères. Ça veut dire que genre, du coup, c'est aux manches, mais vous bougez aussi. Enfin,
Les pilotes déjà sont pas attachés comme les passagers, donc les pilotes en fait ont une ceinture en fait avec plusieurs points, c'est-à-dire une ceinture ventrale et en fait aussi au niveau des épaules, qui va permettre de nous maintenir beaucoup mieux en fait sur notre manche. Et après, on a aussi une habitude, une accoutumance en fait de ce genre de conditions. Normalement, on est quand même un petit peu moins stressé que le passager lambda sur ce genre d'événement pour y faire face.
Et ce que j'ajouterais, c'est que la différence fondamentale entre un passager et le pilote qui est aux commandes, c'est que le passager, lui, ne sait pas ce qui va se passer dans la prochaine seconde. Il subit. Alors que le pilote, lui, il sait ce qui se passe. Même s'il a beaucoup de difficultés à contrôler, il est en avance sur le moment. Donc, ça change complètement les données psychologiques pour supporter ce qui se passe.
Mais si on est parfaitement honnête, on a un pilote et un ancien pilote, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur lors d'un long courrier, par exemple, lors d'un vol?
Non, je vais pas dire que j'ai eu peur. Non. On peut avoir des situations dégradées, voire très dégradées, voire nouvelles. Et dans notre métier, en fait, on ne fait qu'appliquer des procédures. Donc aujourd'hui, ma carrière n'a pas été aussi longue que celle de Jean, mais je n'ai jamais rencontré, on va dire, d'événements où j'ai dû passer en mode créatif, c'est-à-dire dans un environnement où les procédures ou des ingénieurs n'avaient pas prévu une action corrective à ce qu'elle laisse passer. Et tout simplement, en fait, les pilotes ne font qu'appliquer ce que des ingénieurs ont réfléchi pendant des dizaines d'heures, alors que vous, vous avez quelques minutes pour l'appliquer.
Pareil pour vous, Jean Serra, est-ce qu'il y a des situations où vous
avez expliqué
en difficulté
sur la chaîne que, effectivement, dans le front intertropical, en allant à Miami, une fois je suis tombé dans une zone particulièrement délicate, tellement délicate que je n'arrivais même plus à lire les instruments de vent pour vous dire comment ça remuait. Bon, je n'ai pas eu peur. Par contre, il me tardait d'en sortir.
Oui, dont vous avez eu peur.
Voilà, il est tardé que ça soit terminé. Voilà.
Ce qui n'est pas bon signe. Mais il y a toujours un copilote, d'ailleurs, généralement.
Oui,
on soutient,
on
généralement.
Deux et c'est très important parce que l'un contrôle l'autre.
Docteur, vous souhaitiez réagir?
Alors, il faut comprendre maintenant qu'avec les vols commerciaux actuels, depuis déjà un certain nombre d'années, il y a des passagers de tous âges qui voyagent avec beaucoup de pathologies. Des gens anxieux, des gens jeunes, des gens âgés, des gens qui ont des pathologies chroniques. Et on peut se retrouver avec ce genre de situation qui aggrave un certain nombre de pathologies déjà préexistantes chez des voyageurs plus ou moins âgés. Donc, vous voyez, ça peut aussi, comme cet infarctus-là qui a entraîné le décès de cette personne, comme cet infarctus, on peut retrouver des passagers plus ou moins en bonne santé parce que les voyages se sont démocratisés depuis 10, 15, 20 ans et qu'on voyage à tout âge et c'est plutôt bien. Hein.
Effectivement, ce passager de 73 ans britannique qui est mort d'une crise cardiaque à bord, on le rappelle, 20 autres personnes sont en soins intensifs à l'heure où on parle à Bangkok. On est également avec François Gémen. Vous êtes chercheur au FNRS, au Fonds de la Recherche Scientifique à l'Université de Liège. Vous êtes professeur à HEC. Merci d'être avec nous. On voulait y voir un petit
avec
peu
plaisir.
Plus clair. Pardon ?
Non, je disais c'est un plaisir d'être avec vous.
C'est un plaisir, pardon, plaisir partagé, j'avais mal entendu. Question, est-ce qu'il y a de plus en plus de turbulences avec le réchauffement climatique ?
Oui, alors c'est pas le principal effet du changement climatique, mais on estime en effet que le changement climatique crée de plus en plus de turbulences, simplement parce que les différences de température entre les différentes couches de l'air sont de plus en plus marquées, ce qui crée effectivement de plus en plus de courants atmosphériques, et c'est ça évidemment qui va créer les turbulences. Et donc on estime que parmi les effets du changement climatique, effectivement, il faut s'attendre à une augmentation des turbulences pour les vols aériens.
Est-ce que ça veut dire aussi que ces turbulences seront de plus en plus violentes avec le temps ?
Oui, c'est probable. Plus les différences de température vont être marquées entre les différentes couches de l'air, plus les courants seront forts et donc plus les turbulences seront fortes. Et donc, effectivement, on peut craindre qu'effectivement les vols deviennent de moins en moins confortables.
C'est pas très, très rassurant.
Verrez, attention, hein, François Gémen, pardon, je passe sous votre autorité, mais pour l'instant, on n'a pas de statistiques, en fait, là-dessus, on ne sait pas.
On ne sait pas
s'il y en a de plus en plus aujourd'hui. On ne sait pas, c'est des probabilités, c'est effectivement, ça semble logique et rationnel, mais pour l'instant, on a juste pas d'éléments dessus, on ne sait pas.
Il y a une étude qui a été réalisée.
Vous rappelez que c'est pas non plus le principal effet du changement climatique,
non, bien
évidemment,
sûr,
par rapport
ça reste vraiment.
Ça reste un inconfort pour le vol et j'imagine pour les pilotes aussi, mais.
Il y a une étude quand même qui a été réalisée en 2023, l'année dernière. La durée annuelle des turbulences a augmenté de 17% entre 1979 et 2020. Donc, ça confirme quand même vos propos.
Oui, non, mais c'est ce qu'on appelle turbulence, c'est encore ce que disait François Gémen ou ce que disaient nos intervenants. On n'est pas secoué comme dans un shaker. C'est un inconfort dans un vol. C'est pas grave, c'est pas important, c'est gérable. Voilà.
Vous qui pilotez les avions, justement, vous constatez qu'il y en a plus ou pas forcément ?
Absolument pas. Mais je vais pas dans le sens. Et puis je me demande en fait comment en 79 on mesurait les turbulences et qu'est-ce que c'était la définition d'une turbulence. Vous l'avez expliqué, il y a 4 catégories de turbulences, légère, modérée, sévère. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des phénomènes météorologiques comme des cumulonimbus qui sont de plus en plus forts, de plus en plus puissants. Maintenant, vous n'êtes pas censé rentrer dedans. Donc, si vous ne rentrez pas dans ce type de nuage, de toute façon, l'air reste calme. Après, c'est le problème, c'est l'autre turbulence classique qu'on appelle les turbulences en air clair et qui sont en fait constituées de courants en fait d'air très puissants qui sont en altitude. Et lorsque vous traversez ce type de courant d'air, en fait, vous êtes soumis à avoir des turbulences. Et ça, c'est les turbulences, c'est le plus compliqué pour nous à gérer car on ne on a beaucoup plus de mal à les prédire, on ne les voit pas sur nos écrans radars.
Et il y a des zones sur le globe qui sont plus propices aux turbulences.
Bien sûr, et ces zones évoluent. Naturellement, alors on l'a expliqué tout à l'heure, j'en ai expliqué, il y a le front intertropical qui est une sorte de grande ceinture que vous avez un petit peu au niveau de l'équateur, et cette grande ceinture en fait est propice avec une tropopause, c'est-à-dire une limite de troposphère très élevée, donc vous avez des nuages qui peuvent s'élever à des altitudes très importantes, donc souvent plus hautes en fait que la hauteur maximum de survol en fait d'un avion. Et après c'est donc ces turbulences en ciel clair et qui elles en fait vont se déplacer au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, et on aura des cartes météorologiques en fait pour nous indiquer où ces turbulences sont.
Et est-ce que les progrès technologiques qu'on fait dans la conception des avions qui m'ont pas l'air faramineux depuis quelques années, je sais pas, j'ai l'impression que les avions sont toujours les mêmes, mais peut-être que je me trompe, et les derniers Boeing étaient plutôt en régression par rapport aux précédents, est-ce que les progrès technologiques vont nous permettre notamment de mieux traverser, de mieux appréhender ces turbulences, ou est-ce que en fait on est un peu au maximum de ce qu'on peut faire, vu que quand même la sécurité statistiquement elle est quasi totale aujourd'hui dans le transport aérien?
On n'est jamais au maximum en fait de ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, les radars météo ont fait d'énormes progrès. On a des visualisations presque 3D aujourd'hui en fait de la forme de nuages. On est capable de regarder 30 degrés ou 40 degrés en fait en bas. On est capable de regarder à gauche. Enfin, on est capable d'avoir presque une vue 360 autour de l'avion, ce qui n'existait pas en fait dans des avions de la génération d'il y a 20 ans. Par contre, dans la génération des avions qui arrivent dans 15 ans, il y a un nouveau système qu'on appelle le LIDAR en fait, qui est une nouvelle génération de radars météo qui est accompagné par Airbus au travers de ses équipementiers, qui est fait justement pour voir ces turbulences en ciel clair, en mesurant avec un laser en fait la dispersion en fait des particules, et d'être capable de visualiser à l'avance pour être devant, pour systématiquement en fait pouvoir prédire en vol ce type de turbulence qui est aujourd'hui pas possible clairement.
Oui, mais donc ça avions. C'est la détection des turbulences à l'avance, mais pas le fait de les traverser et d'y survivre quoi.
Bah, si vous les détectez,
de mieux les traverser.
Si vous les détectez, vous pouvez les éviter sur le plan vertical ou sur le plan horizontal.
En l'occurrence, allez-y, j'en sers.
Oui, il y a cela. Il y a également des progrès qui vont être faits sur les mouvements de l'avion lui-même. On a, par exemple, des indicateurs d'incidence. L'incidence, c'est la pente de l'avion. Il y a des indicateurs d'incidence qui sont sur la cellule. Ils envisagent maintenant également de mettre des indications d'incidence en bout d'aile, à différents endroits de l'avion, pour que donner des informations au pilote automatique pour qu'il soit capable d'anticiper les mouvements de l'avion. Il y a cela, il y a ces progrès avec le laser qui vont permettre des choses extrêmement importantes. Par exemple, moi, à l'époque où je volais, il y avait un gros cumulonimbus. Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Je ne sais pas. Tandis que là, avec ce moyen-là, je vais également savoir ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est une avancée énorme. Quand je vous ai expliqué que j'avais fait un détour de plus de 200 km pour éviter une barre, oui, d'accord, je l'ai faite. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? Je ne savais pas.
En l'occurrence, dernière question, c'était un Boeing. On parle de la série noire autour des Boeing. Est-ce que si ça avait été un Airbus, ça aurait changé quelque chose?
Non. On va être très clair. Rien à voir avec la très mauvaise série que vient de subir la compagnie, fabricant Boeing.
Bon, au moins, ça, c'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois pour ces informations. Et évidemment, une enquête est en cours pour tenter de déterminer au mieux ce qui s'est passé à bord de cet avion.